Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes lundi 9 novembre 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission consacrée à la rentrée prochaine, à la rentrée universitaire prochaine au Mali. Nous ferons avec nos invités le bilan donc des réalisations, le fonctionnement donc de l'organisation même autour de l'université de Bamako, les perspectives pour la rentrée prochaine. Nous sommes avec trois expert Samba Diallo, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, Adama Diamakita, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques donc de Bamako, et enfin professeur Ibrahim Kamara, professeur à l'Université donc de Bamako. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité et bienvenue à ce grand dialogue. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique.
Studio Tamani.
La rentrée universitaire prochaine se prépare, mais elle est confrontée à de nombreuses difficultés en attendant l'ouverture du futur pôle de Kabbala. Selon donc journaldumali.com, avec un effectif de 100 000 étudiants, les facultés sont surchargées et les enseignants débordés. Aujourd'hui, à quand peut-on estimer la date pour la rentrée prochaine? Samba Diallo, vous êtes recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.
Merci. Je voudrais profiter de votre micro pour dire bonsoir amical à tous vos auditeurs. Vous exprimez aussi ma gratitude pour l'opportunité que vous m'offrez pour vous parler d'un sujet qui est une préoccupation pour tous les Maliens, qui devrait l'être, et je pense qu'il l'est aussi, et bien entendu, débattre la question. Parce que pendant longtemps, l'université a été considérée comme la chasse gardée d'une minorité, notamment les étudiants et leurs enseignants. Or, il faudrait que chacun
ait la... Se sente concerné.
Voilà, se sente concerné. Alors, vous me demandez pour à quand la rentrée universitaire prochaine. Je voudrais vous dire déjà que avec la scission intervenue en 2011 de l'Université de Bamako en quatre entités au niveau de Bamako, plus celle de Ségou, et l'autonomie dont bénéficient les universités, la rentrée n'est plus uniforme pour tout le monde. Moi, je suis à mesure de vous dire à l'instant T que dans mon université, la rentrée est effective à partir de ce matin. Parce qu'une de mes facultés, en l'occurrence la faculté des sciences économiques et de gestion, dont nous sommes énormément fiers, réalise chaque année ces deux sessions et essaie de résorber aujourd'hui la crise que nous avons connue qui faisait que nous rentrions en décembre, en janvier. Aujourd'hui, effectivement, avec les deuxième, troisième et quatrième années, la faculté de sciences économiques et de gestion a repris les chemins de l'école. Donc la rentrée est effective à ce niveau. Elle ne saurait tarder pour les deux autres composantes de notre université, à savoir la faculté d'histoire et de géographie. La deuxième session est terminée. Les résultats vont être bientôt proclamés et les inscriptions seront effectives très rapidement afin que d'ici la fin de ce mois de novembre, que cette faculté reprenne également le chemin de l'université. Et enfin, nous avons l'Institut universitaire de gestion, l'UIG. Ils ont terminé avec... l'année académique écoulée, mais ils sont dans le système LMD, ce qui différencie un peu cette structure des autres.
Licence, master, doctorat.
Même si on ne fait pas encore le doctorat à ce niveau. Et donc, je pense aussi que d'ici la fin de ce mois, ils vont reprendre. Ils ont terminé avec... les résultats même sont proclamés pour ce qui concerne le concours d'entrée en première année, parce que pour accéder à cette structure, il faut faire un concours. Un concours d'entrée, ce qui a été fait, corrigé... Depuis septembre, les résultats sont publiés. Donc, bientôt, à ce niveau aussi, ils vont reprendre les cours. Je ne suis pas à mesure de vous dire date exacte, mais d'ici la fin de ce mois, cette structure aussi va reprendre.
D'accord.
Il reste enfin une dernière structure qui est l'Institut universitaire de développement territorial, qui est un institut qui n'est pas assez connu, qui reçoit très peu d'auditeurs. Nous avons en tout pour tout une centaine d'auditeurs, mais c'est au niveau... des masters, il y a une licence professionnelle, mais c'est surtout au niveau
à quoi sont destinés ces étudiants.
La plupart du temps, pour l'UDT, ce sont des professionnels qui sont déjà en activité, qui vont parfaire leur formation.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Samba Diallo. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Alors, une chose est de démarrer l'année universitaire, mais une autre chose est de rendre effectives les cours. Donc, de façon générale, les professeurs, quelle est votre vision par rapport à la reprise des cours?
Je profite de l'occasion déjà pour dire un petit bonsoir à vos auditeurs. L'état d'esprit des professeurs n'a pas changé d'un iota depuis un certain moment. Mais il est dommage que les professeurs soient en marge de la rentrée, parce que très souvent c'est une décision administrative qui impose la rentrée. Or, ça devrait être une décision souvent concertée, collégiale, et qui pourrait donner à la chose un engouement aussi attendu, autant pour les professeurs que pour les étudiants. Et ensuite, on voit que cette décision, cette gestion fait défaut depuis un bon moment. Et on attend toujours. Et j'espère que avec l'apport de M. Diallo, même si c'est vrai que je reconnais que la faculté des sciences économiques a fait d'énormes progrès, et aujourd'hui est peut-être cité comme un exemple, mais il reste beaucoup à faire.
Alors, un autre recteur en ligne avec nous, Adama Diamant Keïta. Vous êtes recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, M. Diallo, merci. J'entends parfaitement bien la communication. Je m'associe à mes deux prédécesseurs pour saluer vos auditeurs ainsi que tous les partenaires de l'université. La question que vous avez posée est une question très pertinente, qui est d'actualité, les difficultés liées à la rentrée. Alors, cela ne va pas sans que je fasse un peu de rappel historique, comme l'a dit le professeur Diallo. Après le démembrement de l'Université de Bamako en quatre entités, les rentrées ne se faisaient pas, les années étaient chevauchées. Il y avait des années tronquées, des années blanches, et des années ainsi de suite. Donc il y a un défi qui était posé, c'était de faire des rentrées à date échue, le 1er octobre. Donc progressivement, je pense que nous avons pu éponger petit à petit ce retard-là, avec la prévision que la rentrée va être effective le 1er octobre 2016. Donc nous étions dans ce schéma-là. Alors, entre-temps, il y a effectivement quelques difficultés qui sont parvenues pour faire que la rentrée de cette année va se faire dans des conditions particulières. Et ces conditions particulières, c'est les changements, afin de faire en sorte que la nouvelle technologie puisse aider à faire les pré-inscriptions. Donc nous sommes dans cette logique de pré-inscription qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, les étudiants sont en train de se mettre petit à petit à niveau pour se faire inscrire physiquement. Donc à la date d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pourcentages d'étudiants qui sont physiquement inscrits, notamment au niveau de la faculté des sciences et techniques à Badlabougou. Nous enregistrons un taux de plus de 50% d'inscrits. Et au niveau de la faculté de médecine, il y a un total de 500 inscrits. Et l'Institut des sciences appliquées, qui est la troisième structure de l'Université des sciences techniques et technologies, a 92 étudiants inscrits.
Alors, la question majeure, c'est est-ce que ces inscrits-là seront prêts pour la rentrée prochaine? Et si oui, quand est-ce que votre université va devoir mettre cela en place?
Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, la rentrée, il faut différencier deux niveaux. La rentrée académique et la rentrée pédagogique. Je pense que pédagogiquement, déjà, des cours ont commencé à l'Institut des sciences appliquées depuis le 1er novembre et le 1er octobre, disons. La faculté des sciences s'achemine également vers l'effectivité des cours vers le 15 novembre. Et quant à la faculté de pharmacie et celle de médecine, ils ont bouclé tout à l'heure leur examen de deuxième session et on est dans les corrections. Alors, ces corrections vont terminer certainement vers fin novembre et début décembre, et aussi ils vont commencer les cours.
Donc, je ne m'abuse, le chevauchement de l'année est constaté donc à votre niveau?
Le chevauchement de l'année continue à tous les niveaux. Parce que si on prend le fait que le point de départ est le 1er octobre, alors on est dans le chevauchement. Maintenant, quel est l'impératif pour que l'année universitaire soit considérée comme valable? Il y a des critères qui ont été dégagés par l'UNESCO, c'est d'avoir 25 semaines. Alors, si des cours ont pu être étalés sur 25 semaines entières, l'année est considérée comme valable. Et avec le LMD, nous sommes surtout dans la semestrialisation. Et qu'un minimum de 12 semestres et de 12 semaines par semestre est nécessaire pour valider le semestre. En temps normal, donc on va aller jusqu'à 14 semaines pour le semestre.
D'accord.
Alors, donc il n'y a pas de problème majeur à ce niveau.
D'accord. Merci beaucoup, Adama Diamant Keïta. Vous êtes recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Restez avec nous, car l'émission ne fait que commencer. Alors, nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter. N'oubliez pas de faire un tour également sur notre site web www.studiotamani en un seul mot au .org et faites-nous part de vos remarques et suggestions à notre adresse électronique contact au singulier @studiotamani en un seul mot au .org. Alors, nous sommes sur la rentrée prochaine, la rentrée universitaire prochaine. Déjà à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. La rentrée est effective selon le recteur Samba Diallo qui l'a affirmé tout à l'heure et que cela est effectif donc depuis ce matin. Alors nous allons voir l'état des structures d'accueil aujourd'hui. Est-ce que l'État loue toujours des structures à des particuliers? Auprès de particuliers, M. Diallo.
Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même saluer ici, et M. Camara l'a souligné tantôt, l'engagement du corps professoral au niveau de mon université. Je pense que je vous ai parlé de l'effectivité de la rentrée au niveau de la EPSEC. Ce sont les enseignants qui ont décidé. Qui veulent.
Donc ils ne sont pas en marge.
Non, ils ne sont pas en marge. Moi, j'essaie de les associer. Du reste, dans l'Université des sciences sociales et de gestion, nous avons créé un cadre que nous appelons le cadre de concertation où nous essayons de faire un peu de prospective avec le syndicat, les enseignants, les étudiants, le syndicat des étudiants et l'administration pour voir quels sont les grands problèmes qui vont émailler notre année à venir. Et ensemble, on dessine les pourtours des solutions possibles. C'est ce que nous avons essayé, la réunion de ce cadre de concertation. La première réunion aura bientôt lieu. Et nous associons d'ailleurs à cela la présidente de l'université. Maintenant, quant à la question des infrastructures, je dois vous dire que, en fait, un des problèmes, sinon le principal, des problèmes que nous vivons, c'est le manque d'infrastructures au niveau de l'université. Je sais que cette année, nous allons avoir, pour ce qui concerne les premières années, beaucoup de difficultés. Je ne peux même pas vous dire quand est-ce que les premières années vont commencer. Parce que dans le meilleur des cas, nous aurons 6000 étudiants en première année. Et au niveau de la faculté, au niveau de la seule faculté, de sciences économiques et de gestion. J'en parle parce que c'est quand même la faculté de référence, même si ailleurs, les choses vont dans l'ensemble bien. Et donc, 5000 étudiants, j'ai pris en venant quelques statistiques. Pour une faculté qui dispose d'un amphi de 400 places, de deux amphis de 200 places et de 18 salles de 40 places, vous comprenez que il va y avoir énormément de difficultés. Et donc, la faculté des sciences économiques a ses locaux, même si elle a des infrastructures insuffisantes. Quant à la faculté d'histoire et de géographie, toute cette faculté est en location à l'immeuble La Sanasila. C'est un bail que l'État a signé avec un promoteur immobilier local. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que le cadre d'apprentissage n'est pas approprié. Mais à côté de cette location principale, nous louons l'Afro-Basket au niveau du 26 mars. Et nous sommes aussi présents au niveau de Ampateba, la salle de spectacle Amadou Ampateba, où nos étudiants prennent également des cours. C'est, il faut le dire honnêtement, ce ne sont pas des cadres appropriés pour l'apprentissage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous devons faire avec ça, en attendant que l'État ait les moyens, soit de construire de nouvelles infrastructures, parce qu'on parle beaucoup de Kabbalah. Kabbalah est dépassé depuis. Il faudrait peut-être 3 ou 4.
Donc vous estimez que estimations sur Kabbalah sont dépassées?
Moi, je suis persuadé que Kabbalah n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des besoins des universités du Mali.
Alors, je rappelle que Kabbalah va quand même accueillir 30 000 étudiants. Vous pensez que cela est insignifiant?
Bon, on peut faire rapidement le calcul. Moi, j'en ai aujourd'hui 24 000. Eux, ils doivent être autour de 40, 45, voire 50 000. Si vous ajoutez à cela l'Université des Lettres et des Sciences Humaines, qui est beaucoup plus importante du point de vue des effectifs que la mienne, et vous ajoutez, vous êtes autour de 100 000 étudiants, 30 000, ça fait 3 fois. Donc Kabbalah, c'est vrai, et puis il ne faut pas oublier ce que les gens ne disent pas assez. Kabbalah, c'est surtout pour
l'hébergement.
L'hébergement, ce n'est pas... Les infrastructures académiques ne sont pas aussi importantes à Kabbalah. Donc Kabbalah, c'est vrai, ça peut résoudre, ça peut nous aider.
En partie.
En partie. Il est même question, cette bonne nouvelle nous a été annoncée il y a quelques semaines par M. le ministre. Il y a 4 amphis préfabriqués de 500 places qui vont être livrés d'ici le mois de janvier. Ça va être un soulagement pour le monde enseignant. Donc il y a des efforts qui sont en cours. Et je dis encore une fois, peut-être que nous en reparlerons, le problème du financement des infrastructures est posé. Et il faudrait que chacun accepte d'y participer. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Alors, nous allons demander à Adama Diomand Keïta, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, son point de vue sur la réception très prochaine de Kabbalah.
Alors, pour le problème d'infrastructure, comme l'a dit le professeur Diallo, c'est un problème partagé. Moi, j'ai deux nouvelles créations qui sont au sein de mon université, telles que la faculté de pharmacie, qui a près de 1000 étudiants qui sont en train de squatter dans le flanc de la faculté de médecine, qui partagent les mêmes locaux. Et il y a aussi l'Institut des sciences appliquées qui partage les mêmes locaux que la faculté des sciences et techniques. Donc, ces deux nouvelles créations-là, il faut des structures pour elles. Et Kabbalah, ils ne sont pas prévus là-bas. Donc, nous essayons tant bien faire que mal pour trouver...
D'après les propos, Kabbalah est déjà submergé.
Oui, Kabbalah, pratiquement, comme l'a dit, Kabbalah, en termes de capacité, est dépassé. Il faudrait vite passer. Je pense que le cabinet est en train de réfléchir sur le CAPI. Il y a un espace qui a été près de 50 hectares à CAPI, alors, qui va être aménagé donc, pour pallier à l'insuffisance Kabbalah. au-delà de la quantité, c'est aussi la qualité des infrastructures. Moi qui gère une université des sciences techniques et technologies, il me faut des laboratoires. Des laboratoires qui répondent aux normes, aux standards internationaux, afin que la recherche puisse se faire dans des conditions optimales. Et vous remarquez que ce sont des salles de classe qui ont été transformées en laboratoires et ne répondent pas aux conditions requise pour un bon environnement de la recherche. Donc, une fois de plus, le problème d'infrastructure, c'est un défi lancé à tout le monde. Pas à l'État seulement, je pense que la société civile aussi doit jouer son rôle. Dans certains pays, on voit que les opérateurs économiques, la société civile, les ONG et même les alumni, les anciens qui sont passés par ces structures-là, mettent la main à la poche pour venir en aide à l'université. Et toutes ces cultures-là ne sont pas encore arrivées au Mali. Et je pense que avec des émissions comme ça, on peut amener les anciens des établissements afin qu'ils fassent de l'école de l'enseignement supérieur leur priorité aussi.
Nous servons aussi à ça. Merci beaucoup, M. Keïta. Alors, vous avez parlé donc de qualité. Nous allons demander aux enseignants, en termes de qualité, est-ce que les difficultés que l'on constate au niveau des infrastructures jouent sur la qualité de l'enseignement, M. Camara?
Mais effectivement, quand on est dans une mauvaise condition et quand on voit, ces interlocuteurs en face qui sont dans une situation inconfortable, donc forcément, cela va se répercuter pas sur la qualité de l'enseignement, mais sur la qualité des réceptions du message passé. Et forcément, nous-mêmes, souvent, on en souffre lorsque...
L'enseignement, c'est un tout. Quand vous dites la réception est mauvaise, c'est que l'émission même n'est pas bonne.
Mais puisque vous comprenez facilement...
Dans une structure sans micro...
Sans parler. Et vous avez en face de vous 2000 étudiants. Il faut crier. Et souvent, à la fin de deux heures, on perd la voix. Et une fois rentré à la maison, souvent, on a très mal à la gorge. Et si vous devez passer 12 semaines ou 24 semaines dans cette condition-là, c'est déplorable. Mais ce qui est pitoyable, c'est vraiment c'est la désorganisation du politique. Parce que depuis 1995 jusqu'à nos jours, ce sont les mêmes situations qui persistent, qui sont là, qui perdurent. Et lorsqu'on regarde très bien la chose, c'est que c'est vraiment un manque d'organisation qui est là, qui est criard et qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire le nom et qui vraiment montre ses limites à tous les niveaux. Et comme le professeur Diallo l'a dit, c'est à la FSEC, c'est un cas particulier. Les enseignants, les intervenants ont pris la chose en main. Mais dans les autres facultés, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui est dommage encore. Et si vous regardez un peu pourquoi la FSEC va plus loin que les autres, c'est parce que il y a une certaine professionnalisation. Et c'est ce que le système LMD devrait ramener. Et on ne veut pas aller au bout de la réforme. C'est ça le problème du Mali. On commence une réforme. Et on commence, à peine commencé, pip, on arrête. Et réciproquement, on a commencé l'université. On dit, oui, les années s'échevauchent. Il faut séparer les universités. On a créé des
ça marche toujours pas.
Toujours pas. Et toujours les rentrées sont disparates. Mais par contre, on a des universités pilotes qui sont privées. Et on peut vraiment prendre l'exemple sur ces universités-là qui reprennent à la même date tous les ans, qui reconnaissent des sessions à la même date tous les ans et qui produisent des résultats tous les ans et qu'on voit que malgré le nombre élevé de ces étudiants, ils parviennent à tenir. Mais je ne sais pas comment le gouvernement, l'université publique n'y parvient pas parce que nous, on a la chance d'intervenir sur les deux créneaux, autant public que privé, et je ne comprends pas. Et comme vient de le dire tout à l'heure
M. Keïta
au téléphone, c'est vrai, il serait bon de joindre les privés, mais dans ce cas, il faut changer les textes de l'université aujourd'hui. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, c'est obsolète et ça ne date pas du tout à la modernisation de l'enseignement supérieur. Pour créer un laboratoire de recherche, c'est vrai que le laboratoire de recherche n'est pas propre à l'école de médecine, mais c'est propre à toutes les facultés de droit, d'économie, de sciences sociales, parce qu'il faut essayer, il faut tester des nouvelles méthodes de réflexion, des nouvelles méthodes de vie, pour essayer d'écrire là-dessus et sensibiliser. Mais je suis vraiment sur ma faim, quand je vois tout de suite que depuis 95, les cours sont donnés à Mpateba. Mmh. Depuis combien de temps les cours sont donnés à Aza? Et pourtant, l'Université Kabbala est venue pour parler à cela. Et on me dit que
déjà, l'Université Kabbala est déjà obsolète. Kabbala
et franchement, je me dis, à quoi servent les prévisions pour les universités? Et quand on sait que l'enseignement a 30% du budget du Mali,
d'État,
franchement... Mmh.
Allez-y, Monsieur Diallo. J'allais justement vous poser une question, mais allez-y.
Si oui, merci. Je voudrais quand même apporter un bémol au propos de Monsieur Camara. Il faut reconnaître que ce n'est pas parce que l'État ne fait pas des efforts, l'État en fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les privés dont il a parlé, il faut qu'on se renseigne combien coûte une université privée aux parents.
L'année.
C'est au moins le million. Et au niveau
les plus abordables, c'est demi-million.
Au niveau de voilà, au niveau des universités publiques, les frais de scolarisation, c'est 5000 francs. Alors, si vous prenez ça, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure,
le public ne peut jamais
il faudrait que avec pallier... l'autonomie des universités que l'on revoie, qu'on aille jusqu'à revoir les frais d'inscription. Dans les universités, je ne dis pas d'aller au million, mais il faudrait que les parents participent davantage à la formation.
Pour se sentir concernés.
Nous payons, chacun de nous paye pour le jardin de l'enfant de son fils 100 000 francs par an.
En moyenne.
En moyenne. Et on n'est pas capable de payer la même somme pour son enfant à l'université au moment où celui-ci est détenteur en plus d'une bourse. Au moment où on le paye pour qu'il étudie, il ne paye que 5 000 francs pour sa formation. Quelle économiste on peut former avec 5 000 francs? Quel médecin on peut former avec, si on prend le cursus, les 7 ans, 35 000 francs, ça peut former quel médecin? Donc voilà autant de réalités dont il faudrait que la société se saisisse.
Donc vous pensez que les réformes déjà entamées ne sont pas suffisantes?
Les réformes engagées ne sont pas suffisantes, il faut aller plus loin. Et il faut être plus courageux dans les prises de décision. C'est ça, c'est mon point de vue. Parce que on fait semblant, je dis souvent aux étudiants, nous sommes dans une université du faire semblant. Monsieur Camara l'a dit, je ne sais pas s'il enseigne dans la salle Bakayna, mais la salle Bakayna n'est pas appropriée, ce n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est une salle de cinéma. Mais que nous louons depuis la création de l'université, il y a des problèmes. Il faut vraiment sortir de ça.
Aller au fond des choses.
Au fond des choses et avoir le courage de dire aux parents, à la société, il faut qu'elle participe davantage à la formation de ses enfants.
D'accord.
Sinon, ce n'est pas possible. Alors, on va tourner en rond.
Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, M. Keïta, M. Diallo parle de participation des parents dans cette affaire. Alors, selon vous, quelle peut être la part des parents dans cette affaire? On me fait signe que M. Keïta n'est pas en ligne. Nous allons observer une courte pause et nous tenterons de joindre M. Keïta pour son analyse.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter pour vos réactions à ce que vous entendez au programme donc de Studio Tamani. Alors, nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui sur la prochaine rentrée universitaire pour cette année. Alors, on nous fait signe déjà au cours de cette émission que les 30 000 places pour les étudiants de Kabbala, cette université de Kabbala, les infrastructures de Kabbala donc vont être submergées par les 100 000 étudiants aujourd'hui, l'estimation dans les universités de Bamako, c'est plus de 100 000 étudiants pour peu d'infrastructures, toutes choses qui dégradent considérablement la qualité donc de l'enseignement. Alors, est-ce que M. Keïta est en ligne? Toujours pas. Alors, Monsieur Camara, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on parle peu de la formation continue des enseignants. Est-ce que cela est pris en compte par l'État?
À ma connaissance, non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est les professeurs qui doivent prendre eux-mêmes en charge, souvent, moi je le dis à vos collègues, souvent leur propre formation, de se mettre à jour, de suivre le logiciel, de mettre à jour le logiciel de formation, afin de donner aux étudiants des connaissances toutes fraîches. Mais j'aimerais quand même revenir un tout petit peu, pas sur les propos du professeur Samba et du professeur Diallo, mais moi je pense que je n'ai pas dit que le gouvernement ne fait pas d'efforts, mais j'ai dit que c'est un problème d'organisation au niveau de l'enseignement supérieur surtout.
Alors vous pensez que avec un peu d'organisation, on peut venir à bout de beaucoup de difficultés.
On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin que les parents payent plus les frais d'inscription. Non, s'il n'y a pas lieu, il suffit juste de mettre une petite forme d'organisation. Je pense que ça pourrait aller mieux. Moi,
quel genre de d'organisation?
Alors déjà, il faut changer l'administration. Il faut changer la forme administrative telle qu'elle est.
Elle est comment et comment vous la voyez?
Je vais pas quand même me mettre en porte-à-faux avec mes collègues.
Non, il faut le faire.
Mais comprenez très bien que
si cela apporte
aujourd'hui, j'ai fait juste un parallèle
du 109 à l'organisation, c'est utile.
Mais ils le savent. Et tout le monde sait. Et tout le monde sait que aujourd'hui, la forme administrative telle qu'elle est pose problème. Et pourquoi on a voulu mettre en place l'inscription en ligne, même si ça ne marche pas? C'est une volonté qui est là pour parer à certaines difficultés, mais qui, je pense que au-delà, il faut des mesures courageuses et aller en face des problèmes, dire ce qui se passe et modifier et changer. Aujourd'hui, l'université a besoin de nouveaux textes, l'université a besoin de nouvelles organisations, surtout au niveau de la structuration, pas d'augmenter les frais d'inscription ou autre. Quant à la formation continue,
Monsieur Diallo a également parlé de la participation des parents. Ce n'est pas que financière, mais également une forme d'implication.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas au supérieur que les parents vont s'impliquer pour suivre les enfants. Moi, je pense que la participation des parents doit être demandée à un niveau beaucoup plus bas déjà. Et parce qu'à un moment donné, arriver au niveau supérieur, ce n'est plus une question d'éducation, mais c'est une question de formation pour faire face à la vie. Donc moi je pense qu'il faut être clair, et c'est une question de philosophie, il faudrait savoir que je ne sais pas qu'est-ce que le professeur Diallo a dit par rapport à l'implication, mais si elle est financière seulement, moi je ne suis pas pour, je ne partage pas cette implication, mais peut-être que si elle est encore
dans le cadre du suivi
peut-être oui, mais bon, après c'est vrai que c'est différent parce que les spécialités sont différentes, les parents ne connaissent pas aujourd'hui les nouveaux modules qui existent sur la plateforme scientifique universitaire.
D'accord. Ok. Alors, je sens que M. Diallo a beaucoup de choses à dire, mais je vais poser cette question pour qu'il commence sa réflexion. Alors, M. Diallo, on parle beaucoup également de l'université de Ségou. Aujourd'hui, où est-ce que l'État en est avec sa délocalisation des universités?
Bon, merci. Ségou est une université qui a quand même ses 5 ans, ça commence à 4 à 5 ans, commence à sa maturation. Mais Ségou est confronté au même problème que nous. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'enseignants.
Les infrastructures prévoyaient de 1200, aujourd'hui
il y a presque
l'université en est à 1500.
Ils en sont plus, à louer Tientiba, Dante et autres à Ségou comme à Bamako. Mais je voudrais dire ici à M. Camara, vous savez, je suis parent d'élève. Avant d'être recteur. Mes enfants sont à l'université. J'ai conscience aussi de la faiblesse des revenus des parents. Mais comme on dit bien chez nous, rien ne peut résoudre le problème de l'argent sans l'argent. Je vais lui prendre juste deux petits exemples. Ça fait 2 ans que je me bats, moi, au niveau du BSI, le budget spécial d'investissement, pour construire, parce que qui parle de LMD, etc., parle d'abord d'infrastructure, de centre de documentation. Il n'y en a pas. J'ai soumis 2 ans durant la construction d'une bibliothèque à 200 millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'avoir parce que, et je comprends, dans un pays où l'existence même est en cause, les priorités changent. Avec la crise du Nord et autres, l'État a d'autres priorités. C'est vrai, l'enseignement supérieur devrait être une priorité, mais...
L'éducation de façon générale.
L'éducation de façon générale.
Ça continue à être une priorité.
Ça compte pas, l'éducation compte 30%
du budget national.
Mais j'ai dit, au moment où la nation, l'existence de la nation est en jeu, chacun de nous doit faire un effort. Et les parents doivent faire un effort financier. Je précise bien, un effort financier. Aussi.
Alors, où iront les participations des parents?
Mais si j'avais suffisamment, si je pouvais inscrire les gens à 20 000 francs, c'est sûr que j'aurais dégagé suffisamment de ressources pour pouvoir construire.
Entreprendre autre chose.
Aujourd'hui,
la construction d'une bibliothèque,
nous sommes à quoi? Avec 5 000 francs, n'eût été la subvention de l'État, qu'est-ce que vous voulez faire avec 5 000 francs?
Alors, à quoi servent ces 5 000 francs de frais d'inscription?
Les 5 000 francs servent aux aspects pédagogiques. Vous payez la craie, vous payez... Il y a un problème dans l'amphi, il faut... Les 5 000 francs sont vite partis.
Épuisés.
Donc, il faudrait que...
Un ravitaillement autre que...
Si ça ne vient pas de l'État, ça doit venir de quelque part. Sinon, si nous ne pouvons pas, nous avons tous élaboré, toutes les universités ont élaboré des plans stratégiques avec la prévision de construction de salles, etc. Mais tout le monde compte sur quoi? Sur l'État.
Donc, si je comprends bien, l'État, le budget de fonctionnement est un budget de survie aujourd'hui.
C'est un budget de survie. Vous avez trouvé le mot. Nous survivons avec ce que nous avons.
Donc, vous ne pouvez rien.
Si vous enlevez dans ce qu'on verse à l'université, ce qu'il y a comme salaire, plus les heures supplémentaires, vous avez déjà les trois quarts du fonds alloué à l'université qui sont partis. Le reste, il faut le mettre dans l'équipement et les infrastructures. Mais vous comprenez que nous ne puissions pas faire grand-chose.
Répondre aux
Mais besoins. Mieux, cette année, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un fonds pour la recherche. Parce que qui dit université dit recherche. Mais au Mali, on a oublié ce pan de l'université qui est la recherche. On n'en parle presque pas. Il n'y a pas de budget. Dans les budgets d'aucune université, il y a un chapitre consacré à la recherche. Comment voulez-vous parler d'université dans ces conditions-là? Donc je dis, si on veut que les universités soient autonomes, performantes, donnent satisfaction aux parents, les parents doivent faire l'effort de
contribuer à l'amélioration du cadre d'apprentissage. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors parlons un peu de fraude maintenant. La fraude a-t-elle baissé de niveau, d'intensité, M. Camara? Vous êtes enseignant.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par la fraude en général, mais quand vous regardez un tout petit peu les statistiques, si vous parlez de fraude...
Corruption. Parlons de corruption.
À l'université, mais c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut changer de méthode de forme d'organisation. Je vais juste proposer au professeur Diallo tout de suite. C'est vrai qu'il faille des bibliothèques. Il faut 200 millions. Mais moi, pourquoi ne pas aller vers une bibliothèque numérique? Avec les bibliothèques numériques, vous avez aujourd'hui de
Alors, même les bibliothèques numériques ont besoin d'avoir un contenu.
Exactement, mais le contenu est donné par le site hébergeur déjà. Vous avez des sites qui sont là, ils ont des livres qui vous mettent à disposition. Et une fois que vous êtes mis d'accord contractuellement avec ces sites-là, on vous donne des mots de passe et que vous pouvez faire. Oui, mais dans ce cas, c'est différent que de payer des livres physiquement et de les faire venir.
Alors, parce que ces livres vont devenir obsolètes. Tout ceci pose la difficulté d'un fonds souverain. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Diallo qu'il faut que les parents contribuent aujourd'hui à financer le cadre d'apprentissage?
Moi, je ne suis pas d'avis. Il faut organiser un peu l'enseignement. Diallo vient de tout.
Mais l'organisation ne va pas sans financement.
Mais déjà, les ressources dont on dispose, on peut les utiliser autrement. Et c'est
déjà,
ça la question.
Les ressources sont
déjà, il faut mettre un terme à ces heures supplémentaires qui, je pense, que sont un gouffre.
Est-ce que vous, enseignant, vous êtes prêt à renoncer aux heures supplémentaires?
Mais je n'en fais pas. Je n'en fais pas, les heures supplémentaires.
Mais si le besoin s'impose.
Non, les besoins ne s'imposent pas, on crée le besoin. Et je suis désolé que le professeur Diallo sait souvent, dans certains cas, on peut se passer de ces heures supplémentaires-là. Et pour parler de la fraude, de la corruption dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, il y a un effort qui est là, il y a un effort qui est fait, notamment au niveau de la FDP, par la nouvelle équipe qui est là, qui essaie de cerner beaucoup de choses. Même nonobstant ces efforts-là, il y a encore mieux à faire si... Ces universités ne sont pas outillées, ne sont pas bien dotées de capacités, je dis bien des capacités humaines et technologiques pour cerner et maîtriser tous les parcours, tous les cycles administratifs, pédagogiques de l'université. Et c'est là les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'université de Bamako, du Mali notamment.
Alors, nous allons permettre à M. Diallo de...
Bon, moi, je voudrais d'abord la question des heures supplémentaires ne peut pas être niée. Prenez, je vous donne encore une fois, je veux qu'on parle sur la base de statistiques. C'est fiable. Je vous prends pour l'université des sciences sociales et de gestion. J'ai en tout et pour tout 221 enseignants. Pour
un besoin de combien d'enseignants?
Je vais dire tout simplement, pour 24 000 étudiants, j'ai 221 enseignants. Si vous prenez la faculté des sciences économiques, ils ont 99 enseignants. La faculté d'histoire et de géographie, 62 enseignants. Vous n'avez pas de salles?
Déjà, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant?
Non, du tout. Et la plupart de ces enseignants sont des enseignants de rang B. Et donc, normalement, dans une université normale, ce sont des gens qui sont dédiés au TP et au TD. Mais pas les cours magistraux. Mais à la FSEC, vous avez un seul prof de rang A.
Un seul.
Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 44 salles de 18 salles de 40 places. Vous avez un effectif de 5000 étudiants. Où est-ce que vous allez les mettre? Vous êtes obligé de faire de petits groupes pour, bien entendu, pouvoir toucher, faire une rotation pour que tout le monde... Et forcément, un professeur a droit à 6 heures, c'est entre 6 et 12 heures. Mais vous pensez que ça peut...
Ça peut suivre, ça peut
non,
suivre.
Les heures supplémentaires sont une obligation aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. On souhaiterait faire autrement, mais on ne peut pas, parce que c'est la réalité qui s'impose à nous. Mais ceci dit, je partage tout à fait son point de vue. Nous devons faire en sorte que la corruption quitte nos rangs. Même, je prends un exemple de la corruption. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas des livres physiques. Mais
les brochures.
Les brochures, ça sert à quoi? Souvent, c'est des résultats de recherche copiés sur d'autres et qu'on vient vendre aux étudiants. Mais pourquoi achètent-ils ces brochures? Souvent, pour pouvoir...
avoir la note d'examen.
Avoir la note d'examen. Mais parce qu'il n'a pas d'autres sources. D'informations que ces brochures-là. Donc, l'environnement actuel qu'il faut corriger favorise la corruption. Mais ceci dit, ce n'est pas une fatalité.
On peut y
Moi, j'ai souvent dit, quand j'ai eu affaire à certains de mes collègues, jeunes collègues, je leur ai dit que quand je suis rentré en 83, nous les formions avec 3 mois sans salaire. Mais aujourd'hui, mettre la vie de l'école... de l'université en jeu pour des accessoires de salaire, ce qui n'était pas normal. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, souvent, ces heures supplémentaires étaient gonflées artificiellement, mais je vous donne vraiment l'assurance qu'il y a un effort pour contenir, parce que la preuve, l'État vote chaque année maintenant un budget bloqué dans lequel vous devez vous mouvoir où vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Mais ça pose beaucoup, la gestion participe au blanchiment des cheveux des recteurs.
Alors, nous avons quelqu'un qui a bien vécu la période de Moussa Traoré pour accumuler les mois sans salaire. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Les invités à cette émission, Samba Diallo, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, Adama Diamanketia, recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, qui nous a malheureusement quitté en cours de route, et nous le remercions car il est en déplacement pour participer participer à cette émission. Alors Ibrahim Camara, professeur à l'université donc de Bamako, je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadié Touré était à la réalisation de cette émission, Mamadou Ouattara à la technique et Lassine Nakantao à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halou Dmouni.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.